Interview.
1, 2, 3. Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 pour Lucandiwa. L'émission est aussi mise en podcast sur les sites internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de monsieur Pascal Gallet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici pour nous annoncer deux dates, une ce soir et une autre demain. D'ailleurs, on peut peut-être, j'ai pas les documents sous les yeux. C'était quoi les...
Je vais vous dire un peu les détails. Donc ce soir, je joue au Poète Laval à 20h. C'est un récital qui sera consacré, récital de piano bien sûr, qui sera consacré en première partie à André Jolivet et deuxième partie avec notamment, vous avez entendu l'extrait de la deuxième sonate de Rachmaninov qui est l'une des plus grandes œuvres du compositeur russe-américain, comme quoi les artistes aussi restent neutres, n'est-ce pas, dans ce qu'il peut se passer dans le monde actuellement. Et c'est extrêmement important dans la programmation musicale, je tenais à le préciser. Et juste avant cette sonate de Rachmaninov, je jouerai aussi une œuvre chinoise qui m'est dédié d'un compositeur chinois qui m'a écrit cette œuvre au piano, qui est absolument merveilleuse. Voilà, donc ce soir, Poète Laval. Et demain, très important... Oui, oui, c'est ce soir, vendredi, bien évidemment. Mais demain soir, samedi, je donnerai un récital à Crupy, à l'auditorium, n'est-ce pas, de Musiflore de Crupy. D'ailleurs, pour moi, c'est très important parce que demain soir aussi, comme ce soir à Poète Laval, vendredi, ce récital de demain à Crupy, il y aura aussi des créations, figurez-vous, mon cher Yves. Des créations, vous passerez quelques extraits musicaux tout à l'heure d'une œuvre de plus ou moins, oui, de musique de film, mais à la fois que, bon, cinéma aussi, qui a été repris pour la musique dans le dessin animé de Shrek. Je parle de Leonard Cohen, l'Alléluia. Pourquoi ce lien direct? Puisque demain soir, je jouerai trois œuvres d'un des plus grands génies de la musique de film en France, Vladimir Kosma. Et je jouerai deux pièces qui n'ont jamais été données en concert, les fantaisies concertantes de Rabbi Jacob et la fantaisie concertante du grand blond avec une chaussure noire. Pourquoi je dis que ça n'a jamais été donné en concert? Parce que c'est la première fois que ces œuvres sont jouées, seront jouées dans une version concertante que le maître a écrit pour l'occasion. Donc demain soir, je donne rendez-vous à tous les... Comment dit-on les gens qui habitent à Crupy, cher Yves? Ah ben c'est une mauvaise question. Donc à tous les habitants de Crupy. Voilà, et je donne rendez-vous...
À tous les Drômois.
Et je donne rendez-vous aussi aux jeunes. aux jeunes, demain, à 17h30, à l'auditorium de Crupy. J'aimerais beaucoup rencontrer la jeunesse du département. Vous savez, je suis concertiste, j'ai beaucoup joué dans le monde entier, mais je suis pédagogue aussi. Et j'enseigne dans deux grands établissements en France. J'enseigne au Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille et j'enseigne au Conservatoire International Musical de Paris. Et pour moi, la pédagogie, le lien direct avec la jeunesse est extrêmement important puisque, bon, je pense que pour moi, ça me tient à cœur beaucoup. C'est les jeunes qui sont l'avenir aussi d'un pays.
Nous avons débuté cette émission avec un extrait d'une pièce de Rachmaninov qui s'intitule La deuxième sonate, opus 36, hein, je crois.
Exactement.
Rachmaninov, dans votre œuvre, quelle place a-t-il ?
Alors, il faut savoir que Serge Rachmaninov était un très grand pianiste, ce qu'on appelle un virtuose. Né en Russie, puis par la suite naturalisé américain. Rachmaninov a écrit 3 concertos pour piano. On dit de Rachmaninov, c'est ce qu'il y a de plus difficile à jouer au piano, tellement vous avez de notes. C'était vraiment un grand, grand, grand pianiste, un grand virtuose du piano. Et alors, pourquoi j'ai choisi de jouer cette sonate vendredi au Poitlaval et samedi à Crupy? Parce que je vais bientôt enregistrer cette œuvre. Alors j'ai besoin de la donner en concert. J'ai besoin aussi de jouer cette œuvre en concert, parce que en concert, c'est pas l'enregistrement. Vous avez le lien direct avec le public. Donc, tester un petit peu mes choix dans l'interprétation, les tempi, par exemple. Le tempo, c'est la vitesse à laquelle je joue le morceau, pour voir quelle réaction le public pourrait avoir. Voilà. Mais en tout cas, c'est une œuvre qui est en 3 mouvements et qui ne s'arrête pas. Les 3 mouvements s'enchaînent. C'est ça la particularité de cette sonate de Rachmaninov.
Justement, lors de vos prestations face au public, comment percevez-vous justement celui-ci lorsque vous jouez au piano? Est-ce qu'il y a une sorte de communion? Comment ça se passe?
Vous voulez dire, je pense, cher Yves, c'est par rapport à n'importe quel compositeur que je peux jouer en concert, quel impact aura-t-il vis-à-vis du public? Je pense que lorsqu'on donne un concert, on n'a pas le temps de se poser la question au moment du concert. Il faut donc se poser cette question au préalable, dans le travail. Mais je dirais, le plus important, c'est le discours musical, le langage musical, et le discours musical et le don qu'on va donner au public. Alors, après, quel impact il a? Quelquefois, j'ai des surprises. Quelquefois, je ne m'attends pas du tout à ce qu'une œuvre ait autant de succès. Quelquefois, je ne m'attends pas du tout à ce qu'il y ait dans une salle une si grande écoute. Par exemple, quand j'ai joué en Chine, la première fois, il y a une quinzaine d'années ou 20 ans, je jouais une pièce de Chopin et je pensais que les gens allaient être beaucoup plus communicatifs tout de suite. Mais il y a eu une espèce de silence, alors je me suis dit, mon Dieu, peut-être qu'ils n'aiment pas la façon dont je joue. Non, mais les Chinois, c'est, vous savez, c'est très respectueux. Puis alors, par contre, après, une fois qu'ils montrent l'intérêt qu'ils ont pour l'artiste, alors là, c'est terminé, on ne les tient plus et ça dure des minutes et des minutes. Voilà, donc si vous voulez, on n'a pas le temps au moment du concert de se poser la question quel impact aura sa propre interprétation. Il faut se poser la question avant, c'est ce que je dis aussi à mes élèves, dans le travail.
Pascal Gallet, votre interprétation face à une partition, comment intervient-elle? Comment peut-on discerner une version telle jouée par vous de celle d'un autre interprète? Est-ce qu'il y a une sorte de sonorité? Comment on peut décrire cette différence?
C'est une excellente question, et je vous en remercie. C'est là toute la subjectivité de la musique. Alors, pour répondre tout de suite à dans votre question, il y a plusieurs questions. Comment reconnaître telle ou telle version par rapport à tel pianiste? Chez un pianiste, il y a le toucher, il y a la sonorité, il y a la façon d'articuler, il y a la façon de rendre le langage musical clair. On peut comparer certaines interprétations de certains pianistes où on reconnaît, par exemple, le toucher d'une Martha Argerich. On peut reconnaître le toucher d'un Nelson Frère ou d'un Richter. Ou dans les pianistes français, on peut reconnaître le toucher d'un Samson François, par exemple, qui est différent, qui est beaucoup plus dans le velouté. Voilà. Et par rapport à une interprétation, alors là, c'est une très grande question. Parce que la place de l'interprétation par rapport à une œuvre, je dirais, c'est rester dans une structure que l'œuvre oblige à avoir, mais avec un maximum de liberté. C'est très subjectif, parce que à la fois, on se permet des libertés dans une œuvre qui est structurée, c'est là toute l'ambiguïté et la difficulté, et c'est là, je dirais, tout le rôle important d'un interprète qui ne reste qu'un interprète. Ça n'est pas, si vous voulez, je continue à vous expliquer, vous avez le compositeur qui écrit une œuvre musicale, mais l'interprète est là, c'est qu'un intermédiaire entre le public et le compositeur. Je pense que ça n'est pas pour jeter la pierre à certains de mes jeunes collègues, mais dans notre société actuelle, nous perdons cette valeur-là. C'est-à-dire, c'est vraiment servir la musique et ne pas se servir de la musique à des fins carriéristes.
Nous allons continuer avec un autre extrait de André Jolivet, étude sur les modes antiques. Alors, peut-on parler un petit peu de cette proposition avant l'écoute ?
Alors, c'est là aussi un autre sujet très vaste. Je suis le spécialiste mondial d'André Jolivet, de ce compositeur français, qui a été un compositeur extrêmement influent dans les années 70, avec Olivier Messiaen, entre autres. Ils ont fondé tous les deux le groupe Jeune France, qui avait un rôle prédominant, qui était un petit peu en quelque sorte pour contrer l'impact de Pierre Boulez dans la création de musique contemporaine à l'époque. Hein ? Donc André Jolivet est le seul élève européen d'Edgar Varèse. Edgar Varèse, c'est le grand compositeur, vous savez, de ionisation, de musique un peu électroacoustique, tout ça, voilà. Et je suis le spécialiste mondial d'André Jolivet, puisque je reste à ce jour le seul pianiste au monde à avoir enregistré l'intégrale piano de toute sa musique. Alors pourquoi Jolivet vendredi soir au Poète Laval et samedi à Crupy? Parce que la programmation de Jolivet s'inscrit dans une actualité. J'ai donc décidé, durant ces deux années de Covid, de me replonger dans cette intégrale piano et d'enregistrer une intégrale piano en vidéo pédagogique, c'est-à-dire que j'explique l'œuvre d'André Jolivet au piano. Cette vidéo est disponible désormais sur ma chaîne YouTube Pascal Gallet Officiel. Voilà. Et donc c'est un événement effectivement musical très important.
Nous écoutons. Lionel Berthet, bonjour. Vous souhaiteriez intervenir justement après cette édition, cet extrait donc.
Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Diwa. Voilà, je fais partie de l'association Musique Transgénération qui organise la venue du pianiste international Pascal Gallet pour ses deux dates, ce vendredi soir à 20h à l'auditorium du centre d'art Yvon Morin au Poët-Laval et ce samedi à 17h30 dans un premier temps pour un échange gratuit avec les scolaires, les enfants, avec le maestro à l'auditorium Musiflore à Crupy et à 19h30, toujours au même auditorium. Le deuxième récital, et je précise que les deux programmes seront différents. Alors pas 100% différents, par exemple il y aura l'étude des modes antiques dans les deux, mais plein d'autres surprises. Et ce que je peux vous garantir, c'est que j'ai assisté aux répétitions, vous avez entendu la version studio à l'instant qui date de presque une vingtaine d'années, je peux vous dire qu'il la joue encore beaucoup mieux maintenant en live.
Pascal Gallet, oui. Tout à l'heure on parlait justement de cette interprétation de jeu typique de chaque musicien, d'ailleurs, et puis vous êtes vous-même pédagogue, comment justement amener à chaque enfant ou chaque pianiste débutant à essayer de trouver cette écriture ou cette manière de jouer qui leur est propre d'ailleurs.
Cette exigence, vous voulez dire aussi, voilà la problématique dans la pédagogie, c'est à la fois de donner une exigence dans le travail artistique, parce que les enfants, les jeunes, perdent cette notion de discipline et de travail. Vous savez, on est dans une ère où tout va très vite. C'est la société du zapping, hein, les réseaux sociaux, etc. Tout va très vite. Et cette notion de travail pour arriver à faire quelque chose de beau, c'est une notion qui se perd. Et dans la pédagogie, c'est extrêmement important d'arriver à insuffler cette dimension de travail tout en ne décourageant jamais l'étudiant. Encore une fois, je parle de subjectivité. Dans la pédagogie aussi, un prof qui dit « je sais tout, mes élèves n'ont qu'à faire comme moi », pour moi n'est pas un pédagogue. Puisque la pédagogie aussi, c'est se remettre en question par rapport à l'enfant ou l'adolescent pour savoir s'il a perçu votre message pédagogique.
Vous-même, Lionel, vous êtes musicien ?
Un petit peu. Je joue un peu de batterie. Bon.
Ah, il est trop modeste.
Je ne suis pas vraiment dans le milieu classique, mais... j'adore tout style de musique joué. Et je tiens vraiment à faire passer un message très important. On en parlait avec l'étude des modes antiques d'André Jolivet. Écoutez la musique en streaming, en CD, sur support physique, peu importe, c'est bien. Mais la musique vivante, aller voir les artistes en live, en plus des artistes d'une générosité comme Pascal Gallet, c'est encore mieux. Il faut venir ce week-end.
Nous avons un autre extrait, hein. On peut parler donc de Monsieur Chopin,
hein. Bien sûr.
On ne me présentera plus, et vous proposez donc une mazurka numéro 23. Et donc Chopin, pour vous, c'est aussi un virtuose de son époque. Vous êtes attiré d'ailleurs par la virtuosité des compositions.
Alors, c'est une question... tout d'abord, je voudrais rendre hommage aussi à M. Berthet, parce que M. Berthet est trop modeste. Il parle effectivement du rôle de l'association dans le cadre de l'organisation de ces deux concerts. Il est le président, mais aussi M. Berthet a la responsabilité aussi en France d'être un peu mon administrateur, donc de s'occuper aussi de dynamiser, voilà, c'est bien le mot, de dynamiser ma carrière en France. J'ai d'autres... J'aurais pensé que vous me poseriez la question. J'ai d'autres agents qui s'occupent de moi à travers le monde. Mais M. Berthet aussi est là pour insuffler cette dynamique en France. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que la virtuosité est-elle une recherche en soi ? Non. La virtuosité est qu'un seul moyen de donner la musique. Bien évidemment que si vous n'avez pas de virtuosité, vous êtes limité dans vos morceaux. Parce que vous ne pouvez pas tout jouer. Et je reviens toujours au début, c'est-à-dire à l'origine, c'est le travail et encore le travail pour acquérir une virtuosité suffisamment importante. Voilà, ça me paraît indispensable. Mais la virtuosité n'est pas une recherche en soi. Alors il y a certains pianistes qui s'arrêtent, certains musiciens s'arrêtent à la virtuosité. Je comprends, c'est très... comment dirais-je, on est un peu... j'arrive pas à trouver le terme exact. On se saoule un peu de virtuosité, mais ça n'est pas un but en soi, parce que avant tout on fait de la musique.
C'est une sorte d'ivresse.
C'est ce que je veux dire. Voilà. Alors Attention, tout est relatif aussi, c'est que, je répète, si vous n'avez pas de virtuosité, vous ne pouvez pas jouer tous les morceaux. Or, si vous avez de la virtuosité, vous pouvez effectivement aborder tous les répertoires.
Une question me vient, je connaissais un pianiste pour qui Eric Satie était infernal à jouer, parce que ennuyeux.
Alors, vous avez dit là à l'instant, mon cher Yves, vous connaissiez un pianiste, compositeur, Eric Satie, c'est l'un des plus grands génies de la musique chez les compositeurs français. Parce que je comprends maintenant la difficulté de jouer Satie. Satie, avec peu de notes, il dit tout. Écoutez, j'encourage les gens, les amateurs de piano, à jouer les gymnopédies, les gnossiennes. C'est pas difficile. Vous n'avez aucune virtuosité. Sauf que la difficulté, c'est avec une note. C'est dommage qu'il n'y ait pas de piano ici, mais je vous aurais bien joué une gymnopédie. Mais c'est avec une seule note, c'est créer la dimension, créer la beauté. C'est là tout le génie de Satie. C'est pour ça que c'est si difficile à jouer.
Ça me faisait penser à un autre pianiste américain qui est décédé depuis, mais qui faisait des compositions, qui composait des morceaux de très très épurés, de quelques notes, mais chacune amène un univers et qui invite la note suivante à venir. Oh, et il laissait vraiment sonner cet accord ou cette note jusqu'à son silence pour passer à celui suivant.
Bah, ce que j'adore chez Satie, c'est l'épurement, c'est épuré. Et je dirais presque, je fais un rapprochement un peu quelque part entre Bach et Satie. Parce que Bach, avec peu de notes, il dit tout, quoi. Voilà, tout est dit.
Nous allons bientôt écouter ce dernier morceau.
Oui.
Il s'agit de Alléluia de Leonard Cohen.
Alors, ça, c'est encore une autre.
Cette interprétation d'un titre créé par un auteur contemporain. Quelle place a-t-il pris, justement, Leonard Cohen, dans le domaine musical, voire du classique ?
Alors, tout d'abord, l'œuvre que vous entendrez après, donc, c'est une transcription, c'est un arrangement au piano qui n'a pas été fait par Leonard Cohen. Hein. C'est un pianiste américain, Je ne vais pas dire son nom parce que je ne le connais pas suffisamment bien, je n'ai pas envie d'écorcher son nom. Mais là, il s'agit effectivement de la bande musicale du dessin animé Shrek. C'est vraiment inspiré de la chanson Alléluia de Cohen. Alors, si vous voulez, pourquoi un pianiste classique comme moi joue-t-il de la musique de film ou de la musique des dessins animés ou d'autres choses? Durant ma carrière, j'ai eu de la chance d'avoir des rencontres tellement importantes. Et j'ai rencontré, entre autres, l'un des plus grands compositeurs de musique de film en France actuellement, c'est Vladimir Cosma, dont très, très souvent on entend, vous savez, sa musique dans les publicités à la télévision. Voilà, je ne veux pas dire, pour citer un restaurant américain qui, voilà, je ne veux pas dire le nom, mais qui utilise la musique. Je crois que c'est le Grand Blond, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises. Non, ce n'est pas le Grand Blond, c'est un éléphant, ça trompe énormément. Voilà, donc voilà. Mais Cosma, nous avons un rapport d'amitié, et puis je veux dire, bon, c'est un compositeur exigeant. Et j'ai eu une rencontre avec lui, il y a quelques années, qui n'a pas abouti pour diverses raisons, puisque le maître était appelé vers autre chose, et moi, j'avais d'autres choses aussi en activité. Et là, on s'est revus au mois de décembre dans une radio à Paris, et j'ai joué sa musique. Et depuis, cette rencontre organisée par cette radio a ravivé cette amitié. Et je me suis dit, bien, tu vois, Pascal, je ne vais peut-être pas louper le coche maintenant. Je vais vraiment m'investir et travailler la musique de Cosma. Ce que je n'avais pas fait quelques années auparavant. Et là, accroupi, samedi soir, je vais jouer 3 pièces de Cosma. Mais si vous voulez, pour tout vous dire, la fantaisie concertante de Rabbi Jacob et la fantaisie concertante du Grand Blond et une chaussure noire, c'est comme si je jouais 3 fois la sonate de Rachmaninoff ou la 2e sonate de Jolivet. Tellement c'est difficile, mais passionnant à travailler. Et donc là, je me suis lancé dans cette aventure. Je dois vous dire aussi, j'ai parlé d'enregistrement tout à l'heure de la sonate de Rachmaninoff, mais il est question aussi que j'enregistre un disque avec des musiques de films, peut-être des musiques de Cosma, musique chinoise, la sonate de Rachmaninoff et beaucoup d'autres œuvres, Messiaen aussi. On n'a pas parlé de Messiaen, on a parlé de Jolivet. Et Olivier Messiaen, mon maître, Yvonne Loriot, était sa femme. Et Olivier Messiaen avait une particularité, c'était le compositeur qui s'inspirait des oiseaux. Voilà. Et le maître, d'ailleurs, Olivier Messiaen, m'a dédicacé 2 catalogues d'oiseaux. Et ce vendredi soir, au Poète Laval, je terminerai mon récital par Le baiser de l'enfant Jésus, d'Olivier Messiaen, que je vais enregistrer aussi, en disque.
Vous parlez de musique de film, oui. Il y a cet handicap souvent, je parle en général du film, qui ne peut être autonome par rapport à l'image qu'il sert. Est-ce que, Vladimir Cosma, on peut dire que sa musique a une certaine autonomie aussi, mais est-ce qu'il y a cet handicap aussi de cette musique du film ?
Vous posez des questions extrêmement intelligentes et qui, malheureusement, ne peuvent pas être traitées en 30 minutes. Là, vous venez dire une chose qui est très importante. Vous voulez dire, est-ce que la musique de film peut-elle être un répertoire aussi reconnu que la musique classique sans pour autant se servir de la capture d'écran ? Enfin, la capture, c'est pas ça. Mais est-ce qu'une musique de film peut s'écouter sans avoir le film sous les yeux ? C'est un peu votre question. Bon, eh bien, c'est plus ou moins.
Plus ou moins, parce qu'il y a la mémoire de l'image. Oui, si la personne a vu le film, ça lui remémore le film. Mais la musique en elle-même, sans avoir vu le film, est-ce qu'il a cette identité propre ?
Eh bien, c'est toute la puissance de certains répertoires de musique de film qui sont exceptionnels. On a parlé de Cosma. À Krupi, je jouerai Cosma, mais pas que Cosma. Je jouerai aussi une rhapsodie croate de Mvika. Alors Mvika, c'est un compositeur croate et grand pianiste, mais aussi je jouerai Inception de Zimmer. Et Zimmer, c'est un compositeur génial, comme John Williams. Quand vous écoutez vous savez, la musique de la Guerre des Étoiles.
Star Wars.
Mais c'est un génie. C'est un génie. Je mets, c'est la musique de Star Wars au même niveau que la, je sais pas, une symphonie de Bruckner, par exemple. Excusez-moi, je vais peut-être choquer certains puristes, mais quand vous entendez l'orchestration de John Williams, il y a une recherche, il y a un travail, il y a une réflexion sur l'orchestration. Donc je dirais que, bah oui, il n'y a que les grandes musiques de film qui restent et qui n'ont pas besoin du film.
L'artiste que je, dont je parlais tout à l'heure, c'est Mortal Feldman.
Ah oui, Feldman, je connais. Ouais.
Voilà, et donc c'était lui que je parlais avec son aspect minimaliste. Eh bien, nous allons nous quitter pour cette émission. Et je rappelle aux auditeurs donc votre intervention ce soir à Poët-Laval, au Centre d'art Yvon Morin, à 20h. Et ensuite au Centre musical Musiflore à Crupy, demain, 7 mai, à 19h30. Et je crois aussi qu'il y aura une gratuité pour le récital aux enfants de moins de 12 ans.
Exactement. Pour les moins de 12 ans, c'est gratuit. Les deux récitals, s'ils veulent venir, pour les deux. Et surtout, n'oubliez pas le temps d'échange. Les parents d'élèves sont invités à venir avec leurs enfants rencontrer Pascal Gallet pour un temps d'échange gratuit, pédagogique, convivial à 17h30 au Centre Musiflore de Crupy.
Et puis, on peut peut-être découvrir votre travail, Pascal, sur Internet.
Oui,
est-ce que vous avez une page?
Oui, alors je suis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Pascal Gallet. Vous me trouvez très facilement. J'ai un site web, c'est pascalgalletofficial.com. Et puis, vous tapez mon nom sur Google et il y a suffisamment d'informations. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre accueil. Et je serai ravi de venir de revenir à Di.
À Erdiwa.
Voilà.
Et nous quittons donc avec ce morceau de Leonard Cohen. Alléluia. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup.
Au revoir.